20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est en Amérique que nous nous évaderons virtuellement ce soir, en compagnie du clarinettiste Patrick Messina, et cela à l'occasion de la publication d'un album absolument envoûtant, célébrant la musique américaine, album que Patrick Messina a enregistré avec son grand complice, le pianiste Fabrizio Chiovetta. Mais pour commencer, comme chaque soir, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Le danseur et chorégraphe français Manuel Legris a été nommé à la direction du corps de ballet de la Scala de Milan. C'est un grand honneur, même en ces temps difficiles, de commencer à travailler avec ces formidables danseurs, une nouvelle équipe et dans ce prestigieux théâtre, a-t-il écrit sur son compte Facebook. Comme le rapporte Philippe Gaud dans son article publié sur le site de Radio Classique, l'un des premiers engagements de Manuel Legris sera la création de Verdi Suite, conçue pour la grande soirée de gala du 7 décembre à la Scala, soirée qui réunira les plus grandes stars internationales de l'opéra et qui sera retransmise à la télévision comme en streaming. Dans le cadre de la troisième scène, l'Opéra de Paris vient de mettre en ligne un nouveau film, Une nuit à l'Opéra de Sergueï Loznitsa, un film nous transportant, grâce à des images d'archives, dans quelques-unes des plus prestigieuses soirées de gala au Palais Garnier, soirées fréquentées par Brigitte Bardot, Charlie Chaplin, Grace Kelly, le général de Gaulle ou même la reine d'Angleterre. L'occasion notamment de revoir quelques images d'un récital mythique donné par Maria Callas en 1958. C'est le 18 décembre que le théâtre de l'Athénée rouvrira ses portes au public en accueillant la troupe des Frivolités parisiennes pour une toute nouvelle production, Le Diable à Paris, opéra comique de 1927 sur une musique de Marcel Lattès évoquant les frasques de la vie parisienne, un spectacle idéal pour les fêtes qui sera à l'affiche jusqu'au 9 janvier. Et à l'Opéra de Lyon, c'est avec la musique de Berlioz que se fera la reprise dès le 15 décembre avec Béatrice et Bénédicte, sous la direction de Daniele Rustioni, dans la mise en scène de Damiano Micheletto et avec, dans la distribution, Michel Lozier et Julien Baer dans les rôles-titres. Une production qui sera donnée jusqu'au 1er janvier.
Laure Maison sur Radio Classique.
Les portes du Théâtre des Champs-Élysées rouvriront également au public le 15 décembre avec un concert de la harpiste Marielle Nordmann qui sera en compagnie de quelques-uns de ses amis musiciens. Parmi les événements à l'affiche, on notera également le récital de Jonas Kaufmann prévu à l'origine le 6 décembre et reprogrammé au 22. Le Théâtre des Champs-Élysées met à l'honneur également les jeunes talents à travers 6 rendez-vous en ligne, 6 concerts filmés, diffusés sur la web TV du Théâtre des Champs-Élysées et sur les réseaux sociaux de la Caisse des dépôts qui soutient cette opération. C'est ainsi que vous pourrez profiter dès le 8 décembre d'un concert de l'ensemble Jupiter avec la mezzo-soprano Léa Descendre. Ce seront ensuite au Local Brass Quintet, un jeune quintet de cuivre issu du CNSM de Paris et à l'ensemble Correspondance de Sébastien Dossé de se produire sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées et devant des caméras. 3 spectacles de danse seront également proposés jusqu'au début du mois de janvier. Alors, écoutons justement ce soir Léa Descendre et les musiciens de Jupiter qui nous avaient offert l'année dernière un magnifique premier album dédié à Vivaldi.
Furore, socce, barbari, furie, 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 venite a nos. Armate, face, tango e mosace, con regno squallido. Arrivate, face, torno e bus, furore, sangue e pane. funeris, vindictatari funeris. Irata nostra pectora, dulce ducete vos. Vindictam tanti funeris, irata nostra pectora, morte facello stragibus, duces, ducete vos, ducete vos. Guardate, face tangue vos, acceco regno squallido, acceco regno squallido, furore succe barbari, furie venite ad nos. Guardate, face tangue vos, acceco regno squallido,
un air de Judita Triumphans de Vivaldi, chanté par Léa Desandré avec l'ensemble Jupiter. Ils seront donc en concert samedi au Théâtre des Champs-Élysées, concert à huis clos, mais filmé et diffusé. Il sera en ligne, disponible à partir de mardi prochain.
Le journal du classique sur Radio Classique.
On s'embarque pour l'Amérique maintenant avec notre invité Patrick Messina qui vient de nous offrir un superbe album aux côtés du pianiste Fabrizio Chiovetta, mettant à l'honneur quelques grandes figures de la musique américaine, de Stephen Foster à Charles Ives, en passant par George Gershwin, Leonard Bernstein, Aaron Copland ou encore André Prévin. Une musique, un répertoire cher au cœur de ce clarinettiste qui a étudié et débuté sa carrière aux États-Unis, comme il nous le raconte justement ce soir.
L'Amérique m'a toujours passionné, mais depuis tout petit, c'est assez étrange. Quand j'ai terminé mes études au CNSM, j'ai arrêté la clarinette pendant 2 ans pour faire du théâtre. Je suis rentré au cours Florent, puis ça... La musique a commencé à me manquer, la clarinette vraiment a commencé à me manquer. Là, je rencontre Yehudi Menuhin, je rentre dans sa fondation et je lui parle de mes doutes et de mon envie de tout reconstruire, de repartir à zéro. Et là, il me dit, mais pourquoi tu n'irais pas travailler avec Franklin Cohen à Cleveland, qui était clarinette solo de l'orchestre de Cleveland. 3 mois après, j'étais à Cleveland. Donc, je suis parti juste pour 1 an. Mais entre-temps, j'ai gagné ce qu'ils appellent la loterie, National Lottery, pour gagner la Green Card. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait partie de ces, je crois, 5000 étudiants qui gagnent la Green Card tous les ans aux États-Unis. Là, j'ai décidé de m'installer à Manhattan pour 1 an. Et j'y suis resté finalement 9 ans. Donc, ça a été l'Amérique fait vraiment partie de ma vie. J'ai rencontré ma femme aussi. J'ai eu mon premier travail puisque j'ai commencé à travailler au Metropolitan Opera. J'y suis resté 6 ans. Voilà.
Mais justement, quel regard portez-vous aujourd'hui, Patrick Messina, sur cette vie musicale américaine qui est à l'agonie, qui souffre peut-être encore plus que la vie musicale européenne quand on voit l'arrêt total de la saison du Metropolitan Opera, de l'orchestre de New York, de Boston, de Los Angeles? Que ressentez-vous?
C'est très triste. Parce que j'ai souvent mes anciens collègues au téléphone ou par mail. C'est très très difficile. Disons que les États-Unis, quand tout va bien, c'est un rêve d'y habiter. Là, avec les problèmes, on réalise qu'on est vraiment des privilégiés en France. On réalise que nous, musiciens, en tout cas, faisant partie des formations, pour ma part, Radio France, on est privilégiés parce qu'on continue à toucher notre salaire. Eux ont tout perdu. Le concertmaster, le violon solo du Metropolitan Opera, a dû déménager et partir en banlieue de New York parce qu'il ne pouvait plus rester à New York. Donc, c'est vrai que c'est assez catastrophique, leur situation actuelle.
Mais pensez-vous que ces orchestres pourront se reconstruire après un an et demi d'arrêt, sachant que certains membres sont partis, on ne sait pas s'ils reviendront? Comment redonner sa splendeur à un orchestre après 1 an et demi d'arrêt, quand on pense à ces orchestres qui nous ont tant fait rêver?
Je pense que ce sera très difficile, mais ils réussiront. grâce aux fonds privés, il y a quand même beaucoup de gens qui soutiennent les grands orchestres américains. Metropolitan Opera, New York Philharmonic ont des aides privées qui vont revenir de toute façon. Mais là, c'est sûr que tout le monde panique. On a tout fermé, les gens ont arrêté de payer. Mais je suis persuadé que ça va recommencer.
L'Amérique, vous la célébrez dans cet album, Patrick Messina, cet album Songs que vous avez enregistré avec Fabrizio Chiovetta. Et quand on pense à la musique américaine, on pense tout naturellement à Gershwin, dont vous avez enregistré une version pour clarinette et piano des trois célèbres préludes. Alors c'est vrai que Gershwin, il symbolise cette musique américaine qui puise ses racines dans le jazz, dans la comédie musicale, et qui est à cheval entre le savant et le populaire. C'est vraiment un langage assez représentatif de cette musique américaine entre le savant et le populaire, entre le langage européen, puisqu'on sait que Gershwin admirait Ravel, et ses références typiquement américaines.
Oui, mais c'est là tout le génie de Gershwin, justement, ça a été le premier compositeur à réussir à fusionner la musique populaire, donc la comédie musicale, et comme vous dites, la musique savante. Ça a été vraiment le premier à créer un son bien particulier. On appelait le jazz symphonique, hein, sa musique, même si je ne suis pas vraiment d'accord avec ce terme, parce que ce n'est pas non plus du jazz. Tout ça, je pense, vient de Foster, de Stephen Foster, qui est vraiment à l'origine le pionnier de cette fusion de tous ces genres ethniques. Il a vraiment réussi, en fusionnant tous les genres ethniques, à créer un nouveau son, à créer une nouvelle musique. Gershwin, Bernstein, John Adams aujourd'hui doivent beaucoup à Stephen Foster, qui est considéré comme le père de la musique américaine.
Et donc une musique américaine qui a pris comme référence à la base la musique européenne, mais qui a puisé dans ses références ethniques, c'est le melting pot américain, ce sont les références amérindiennes de la communauté noire, de la communauté latino.
C'est tout ce métissage culturel qui a donné ce son. J'ai lu ce matin, en venant dans le métro, j'ai appris que Dvorak avait écrit en 1893, il a écrit cela: j'en suis convaincu, l'avenir de la musique de ce pays s'appuiera sur ce qu'on appelle les mélodies noires. J'ai découvert tout ce dont j'ai besoin pour imaginer une grande et noble musique qui peut faire école. Donc tout est parti de là. Je pense la musique noire, et puis toutes les influences amérindiennes, comme vous dites, qui ont vraiment créé ce son à part.
Et est-ce que cela a créé, selon vous, Patrick Messina, un langage reconnaissable? Est-ce qu'on reconnaît cette musique américaine du XXe siècle à l'oreille, même sans forcément reconnaître le compositeur?
Ouais. Absolument. Il n'y a que qui écrivent comme ça aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, certains compositeurs français, par exemple, je pense notamment à Guillaume Connaissant, s'inspire des musiques du monde aussi, ou même de la pop. Hein, il a écrit des pièces qui s'appellent Technoparade ou Disco Toccata. Voilà, donc partent un petit peu vers ce mouvement avec toutes ces influences populaires. Mais je pense que les Américains ont vraiment, vraiment réussi quelque chose d'exceptionnel avec ça, quoi.
Alors, le père de la musique américaine, vous nous le disiez tout à l'heure, Patrick Messina, c'est Stephen Foster, dont une superbe mélodie ouvre cet album Songs, Jenny with the Light Brown Hair, une mélodie qui fait référence à la musique traditionnelle irlandaise, hein, puisque ce sont aussi les racines de ces compositeurs américains. Une mélodie pleine de nostalgie. Et d'ailleurs, votre album respire la nostalgie. Est-ce que c'est aussi un élément typique de la musique américaine qui viendrait du blues? Je ne sais pas, ce côté mélancolique, nostalgique, même s'il y a également des passages très swingants.
C'est vraiment ce qu'on retrouve même dans la comédie musicale, de toute façon. Hein, quelque chose de toujours presque sentimental par moment. Nostalgique, mélancolique. Stephen Foster, qui était le chansonnier du 19e siècle, qui a écrit des centaines et centaines de mélodies, qui sont restées très très populaires. Il vendait jusqu'à 130 000 exemplaires de chansons. Quoi. À l'époque, c'est ce qui est monstrueux, puisque quand on pense qu'en 1850, aux États-Unis, il y avait peut-être, je ne sais pas, 5 millions d'habitants. Donc c'est vrai que la mélodie a toujours été au sein de la composition de la musique classique aux États-Unis. Et tous ces gens-là, on peut penser après à Bernstein, à Barber. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas intéressés à la musique contemporaine, ou en tout cas, ils n'ont pas été avant-gardistes. Mais je pense qu'ils étaient tellement amoureux justement de la mélodie qu'ils ont préféré rester et cultiver ça.
Et on retrouve d'ailleurs, vous citiez Bernstein, Patrick Messina, on retrouve la fibre mélodique de Bernstein dans cette sonate pour clarinette et piano, une œuvre de jeunesse du compositeur. Il avait une vingtaine d'années en 1942 lorsqu'il a composé cette sonate. On perçoit le futur compositeur de West Side Story, tout est là déjà.
C'est vrai. C'est déjà un des plus grands musiciens du XXe siècle, Bernstein. Il y a un chef d'orchestre exceptionnel. Un compositeur qui aura laissé vraiment sa marque aussi, en s'inspirant notamment de Gershwin, je pense. C'est vrai que dans cette petite sonate, j'ai dit petite parce qu'elle est courte, mais elle est importante, je pense, dans son parcours. Non seulement ça a été la première œuvre éditée de Bernstein, mais justement, comme vous dites, on y entend déjà un petit peu West Side Story. West Side Story n'est pas très lointain là-dedans. Cette petite sonate qui est justement très difficile à mettre en place est une œuvre pour moi majeure de Bernstein parce que c'est le début, c'est le début d'un nouveau son. Est-ce que les compositeurs américains se sont beaucoup intéressés à votre instrument, la clarinette, Patrick Messina? Il y a dans votre album cette sonate de jeunesse de Bernstein, il y a également une sonate d'André Prévin. La clarinette, c'est un instrument qui a compté dans l'histoire de la musique américaine du XXe siècle. Beaucoup, beaucoup, grâce au jazz, ouais. Hein, grâce au jazz, grâce au klezmer. Gershwin s'est inspiré aussi de la musique klezmer, du jazz. Donc la clarinette, qui est un instrument assez caméléon, passe partout. Hein. C'est vrai qu'on l'a énormément utilisé. Mais encore aujourd'hui, les compositeurs contemporains utilisent beaucoup la clarinette pour toutes ses facettes.
Hein. Mais est-ce qu'il y a un son de la clarinette spécifique pour la musique américaine? Est-ce que vous avez cherché, Patrick Messina, une couleur spécifique?
Alors, moi, est-ce que j'ai cherché? Si vous voulez, j'ai pas voulu être un imposteur dans cette aventure. Parce que c'est facile. C'est facile de tricher, de se lancer dans des enregistrements et de faire un petit peu n'importe quoi. Si vous voulez, je voulais pas être Florent Pagny qui fait de l'opéra, quoi. Donc si je fais quelque chose, je voulais faire ça sérieusement. Donc j'ai pris pendant déjà un an des cours d'improvisation et de jazz avec André Villéger, qui est un de nos grands saxophonistes et clarinettistes français. Parce que justement, je pense que pour défendre sa musique, il faut un son un petit peu particulier, un vibrato qu'on n'utilisera pas forcément dans Mozart ou dans Brahms, des petits glissandi qu'on entend régulièrement. Bon, évidemment, on connaît celui de la Rhapsodie in Blue de Gershwin, mais il y en a même dans Bernstein. Bernstein l'a utilisé énormément aussi. C'est vrai que c'est une façon différente de jouer, une approche différente, un son différent. Après, comment définir ça? Est-ce que c'est la clarinette ou est-ce que c'est la musique américaine qui fait que quand on entend la clarinette différemment, ça, c'est assez difficile d'y répondre.
C'est une question de sensation, c'est difficile quelquefois de mettre des mots sur des sensations. En tout cas, ce superbe album Songs que vous avez enregistré, Patrick Messina, avec Fabrizio Chiovetta, vient de paraître chez Aparté. Il n'y a pas eu de concert de lancement, malheureusement, pour cause de confinement. Vous arrivez à maintenir une activité musicale au sein de l'Orchestre National de France, dont vous êtes clarinette solo. Il y a toujours quelques concerts de maintenus, donc vous continuez à jouer.
L'orchestre continue à jouer. Avec des concerts pour l'instant seulement radiodiffusés, mais on va reprendre le 15 décembre avec le public, donc on est très très impatients. On a eu beaucoup de concerts annulés, notamment au Théâtre des Champs-Élysées, à Salomé récemment. Je pense qu'on est en train de voir la fin de cette crise, on espère tous. Je continue à enseigner, je continue à travailler. Disons que c'est, pour nous musiciens, ça peut être un privilège aussi d'avoir du temps pour remettre tout à plat, pour se remettre en question, pour se poser des questions par rapport à notre jeu. Essayer de réparer certaines choses qui ont été abîmées. Le temps est précieux et c'est un... Moi, je vois ça comme un privilège, même si j'ai un peu honte de le dire, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent énormément en ce moment. Mais pour le musicien, je pense que ça peut être aussi une chance, finalement, d'avoir un petit peu de temps et pour travailler, pour recommencer à zéro certaines choses, quoi.
Mais vous n'avez plus les voyages, les musiciens ont besoin de s'échapper, de s'évader. L'Amérique vous manque aussi, j'imagine.
L'Amérique, oui, parce que j'ai beaucoup d'amis. J'ai un grand ami récemment qui est parti, c'est Anton Coppola, l'oncle de Francis Ford Coppola, qui était chef d'orchestre et compositeur, justement de comédie musicale. Il a fait une comédie musicale qui s'appelle Sacco e Vanzetti sur l'histoire des deux fameux Italiens. Et j'ai pas pu aller le voir. Il est décédé du Covid justement à 103 ans. C'était quelqu'un qui avait une pêche incroyable et qui essayait aussi, dans la continuité de ces compositeurs comme Prévin, Bernstein, de faire perdurer ce son américain et à travers la comédie musicale. Donc c'est vrai que ça nous empêche de faire beaucoup de choses. Mais bon, on y croit et on sait qu'on va bientôt recommencer.
Puis grâce à vous, on peut s'y rendre virtuellement en Amérique avec ce superbe album Songs que vous avez enregistré, Patrick Messina, avec le pianiste Fabrizio Chiovetta. Merci infiniment d'être passé nous voir et à très bientôt, on espère, sur scène devant du public, le plus vite possible.
Enfin, oui, ça va revenir.
Merci beaucoup.
Merci Laure.
Une canzone pour clarinette et piano de Samuel Barber. Un nouvel extrait de cet album Songs de Patrick Messina et Fabrizio Chiovetta qui vient de paraître sous le label Aparté. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la soprano Diana Damrao. Diana Damrao qui sera le 15 décembre à la Philharmonie de Paris, le soir de la réouverture des salles de concert au public. Et elle nous fera partager à cette occasion son émotion. Très belle soirée à tous, soirée que je vous invite bien entendu à prolonger à l'écoute de Radio Classique avec Francis Drezel. Thank you.